Dans ce passage de l'Évangile selon Matthieu, Jean le Baptiste, qui est en prison, envoie des disciples pour demander à Jésus s'il est vraiment le Messie attendu. Jésus leur répond en leur disant de rapporter à Jean le Baptiste ce qu'ils ont vu et entendu, c'est-à-dire les miracles et les guérisons qu'il a accomplis. Alors on va déployer. La réponse de Jésus aux disciples de Jean aurait pu être suivie par « Qu'est-ce qu'il vous faut de plus ?» Les aveugles retrouvent la vue, les infirmes marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts se réveillent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus pour vous figurer que je suis le Messie attendu ? Alors cette question, je la pose dans la ferveur de cette belle assemblée d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il nous faut de plus ? Pour tester cette question, comme je le fais d'habitude, je me la suis d'abord posée à moi-même. Que me faut-il de plus ? Je vous livre donc quelques extraits d'une longue liste qui m'a semblé avoir été générée par une intelligence artificielle tant elle l'a si rapidement défilée sur mon écran mental. Uniquement, évidemment, dans le cadre de mon ministère paroissial, qu'est-ce qu'il me faut de plus ? Par exemple, de l'argent suffisant pour que nous ayons enfin une sonorisation convenable dans ce temple. Mais aussi pour avoir de quoi refaire à neuf la nouvelle salle dont nous avons désormais l'usage à la maison fraternelle. Qu'est-ce qu'il me faut de plus ? Au-delà de l'argent mis en commun, il me faut en plus encore de la passion en moi et autour de moi pour l'Évangile. Plus ! Plus de personnes intéressées et engagées et engageantes dans ce mode de vie de notre paroisse qui veut faire entrer en résonance les arts et la foi. Je n'en veux jamais à un téléphone qui sonne ni à son propriétaire, mais je me permets de souligner. Qu'est-ce qu'il me faut de plus ? Eh bien, plus de ferveur, plus de reconnaissance sur ce qui est déjà là, qui existe et qui vit, qui sème et qui bouge et qui évolue. Et arrivé à ce stade de ma liste, quand je me suis entendu penser le mot « reconnaissance », j'ai mieux compris la réponse de Jésus aux disciples de Jean. Ce ne sont effectivement pas les miracles qui manquent. Et dans notre paroisse, il ne manque pas, ne serait-ce que la création de ce cœur du temple qui nous accompagne aujourd'hui et qui accompagne la vie liturgique de notre paroisse. Ce ne sont pas les miracles qui manquent. Aussi, dans tous les événements d'assemblée que nous vivons, quand toutes ces personnes se rencontrent en dehors de leur réseau habituel, et c'est le charme de l'Église de transcender les réseaux habituels, ce qu'on appelle les logiques mimétiques qui nous poussent généralement à nous assembler avec des gens qui nous ressemblent. Une assemblée est composée de gens qui se dissemblent. Quand surgissent aussi toutes ces discussions, y compris spirituelles et théologiques, qui s'opèrent entre les membres de cette Église, et ce, bien en dehors de la vigilance ou d'un je ne sais quel contrôle pastoral. Il y a même des personnes dans notre Église qui sont au bénéfice du miracle discret d'avoir trouvé une meilleure direction dans le cours de leur vie. Ce ne sont pas les miracles qui manquent, qu'ils soient discrets ou qu'ils soient spectaculaires, comme des sourds qui entendent ou des aveugles qui voient. Ce ne sont pas les miracles qui manquent, comme, par exemple, l'organisation de l'entrée et de la sortie du souffle dans votre corps, ou la succession ininterrompue jusqu'à des battements de nos cœurs tout au long de notre vie, si longue, si courte, si tragique ou si vaine serait-elle. Mais des miracles ne seront jamais des preuves. Ce qui manque en fait, c'est de la reconnaissance. La reconnaissance pleine et entière de ce qui vit déjà, qui existe ou tente de naître, qui bouge et qui évolue. Ce n'est pas quelque chose en plus finalement qu'il nous faut, certes, oui, une meilleure sonorisation, une liste impeccable des choses qui rendraient notre paroisse encore plus belle, encore plus chaleureuse, plus accueillante, plus. Ce qui manque parfois, c'est ce préalable de la reconnaissance. Cette reconnaissance sans laquelle la vie, y compris la vie d'une Église qui est un organisme vivant comme un autre, tente souvent de s'étirer ou de se projeter sans fin dans des objectifs plus ou moins lointains grâce auxquels nous nous empêchons d'être heureux. Car ces objectifs ne sont par définition jamais réalisés au moment où nous les envisageons. Je me dis que nous pourrions être même reconnaissants des projets de vie lancés pour être gravés un jour dans un agenda du futur, reconnaissant des idées que nous tentons de réaliser, puisque c'est déjà de la vie en faisant ça. Reconnaissant plutôt que des souffrants d'avance, du temps et de l'énergie que ça va nous prendre, de la déception que cela va inévitablement engendrer puisque ça ne va pas correspondre à nos attentes, et de l'oubli fatal de nous réjouir quand, effectivement et par miracle, ces projets se réalisent. La reconnaissance, en fait, c'est le préalable de la foi. J'ai de la reconnaissance pour tout ce qui se vit dans notre église de Port-Royal, quartier latin, et je nous invite à entrer dans ce mouvement de reconnaissance pleine et entière. Alors, après que les disciples de Jean sont repartis, Jésus s'adresse aux foules et leur parle de Jean, justement, celui qui est désormais en prison. Il interpelle les gens qui l'entourent, Jésus, pour qu'ils puissent reconnaître l'importance de celui-ci, qui n'était pas quelqu'un d'inconstant ou de futile, un roseau agité par le vent, n'était pas non plus un aristocrate habillé comme un prince, qui était juste un prophète. Mais, encore plus qu'un prophète, dit-il, en fait, le plus grand des humains. Il était le prophète. Et pourtant, quand Jésus dit que, malgré tout ça, et dans une formule redoutable, il sera le plus petit dans le royaume de Dieu, il décrit celui dont il parle comme un homme désormais emprisonné dans le passé. Puisque des temps nouveaux ont commencé, et ce n'est pas que Jean est petit, c'est que désormais, en fait, il est loin. La prophétie de ce très grand prophète semble dire Jésus aux foules qui l'entourent, et comme il avait dit aux disciples de Jean, la prophétie de ce très grand prophète se réalise sous vos yeux. Reconnaissez-la et arrêtez de toujours prier pour quelque chose dont vous avez déjà été exaucé. La reconnaissance en préalable pour percevoir l'évidence de ce qui aurait dû vous sauter aux yeux, semble dire Jésus aux foules, mais aussi du discernement pour ne pas continuer à vous abîmer dans la plainte des psaumes adressés à un Dieu qui met un temps incompréhensible et nous laisse errer dans le désert ou dans des prophéties qui ne font que révéler la sécheresse de notre temps présent, comme dit un psaume qu'a repris Jésus sur la croix, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Reconnaissance d'abord comme un sentiment majeur qu'il s'agit de redéployer en nous puisque nous l'aurions confiné dans une cage émotionnelle. mais aussi du discernement pour enfin ne plus attendre encore quelque chose parce que cette chose est déjà là. Voilà, à mon sens, or certes dit passionnément, mais voilà, à mon sens, ce que nous dit cet extrait de l'évangile de Matthieu. Un évangile qui a été préparé évidemment par la prophétie d'Ésaïe que j'ai tenté de vous lire tout à l'heure. « Dites à ceux qui perdent courage, ressaisissez-vous, n'ayez pas peur, voici votre Dieu. » Voilà aussi ce que ça dit aux premières communautés chrétiennes de cette époque qui devaient sérieusement se demander, 50 ans après Jésus-Christ, donc ce qu'elles devenaient, où elles en étaient, qu'est-ce qui pouvait bien se passer ? Pourquoi était-elle là ? Que l'avenir nous réserve-t-il ? Etc. Et ce que ça peut nous dire aussi à nous, dans la ferveur d'une assemblée, d'un troisième dimanche de l'Avent, au cœur de Paris. Et je conclue par ça. Sur cette route, pas de lion. Amen.